Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous et à toutes. L'égalité homme-femme en Europe, il y a des progrès à faire. Les statistiques sont là et sont sans appel. Globalement, une Européenne gagne en moyenne toujours 16% de moins qu'un Européen. Les femmes ont moins de travail, moins de postes à responsabilité aussi, mais des diplômes supérieurs cherchaient l'erreur. Aux marges de l'UE, la Suisse fait figure d'OVNI, pays super développé où le rôle et le pouvoir des femmes stagnent loin, très loin derrière celui des hommes, d'où la colère qui a poussé des milliers de Suissesses à défiler au début de l'été, une grande mobilisation qui commence à être entendue à Genève, Jérémy Lanche.
Tout le monde déteste le sexisme, tout le monde déteste le sexisme.
Être une femme en Suisse n'est pas forcément plus compliqué qu'ailleurs en Europe. Il n'empêche, dans un pays où le revenu par habitant est l'un des plus élevés au monde, la différence de salaire entre les hommes et les femmes est encore plus visible. Les Suissesses gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes. À la retraite, la différence grimpe à 30% puisque les femmes occupent plus souvent des postes à temps partiel. Les trois quarts des postes de direction en Suisse sont occupés par des hommes. Pire encore, une étude a démontré qu'en Suisse, une femme sur 10 se fait licencier à son retour de congé maternité. Et puis, il y a le harcèlement. Avec la question du salaire, c'est le sujet qui est le plus revenu dans les slogans de la seconde grève des femmes en Suisse. C'était le 14 juin dernier. Rachel était venue avec des amis manifester en plein cœur de Genève.
Je raconte toujours un peu la même anecdote. Je terminais tard le boulot, je devais prendre le train. Puis il faisait 35 degrés ce jour-là. J'étais tout habillée en pantalon long et puis avec des manches. Et puis mon collègue, il me dit, mais t'es dingue, il fait chaud. Puis je dis, mais tu sais, moi le matin, je réfléchis à ce que je mets comme vêtements si je sais que je dois prendre le dernier train.
Présente également dans le cortège, Vanessa, venue avec sa petite fille de 8 ans, c'est pour elle qu'elle s'est mobilisée.
Le papa va s'occuper de ma fille, puis on va continuer la marche toute la journée. Pour mes droits, pour ma fille, pour ce qui va se passer plus tard, pour faire bouger les choses.
Le principe de l'égalité entre les sexes est pourtant inscrit dans la Constitution suisse depuis 1981. Une égalité rarement suivie dans les faits. 10 ans plus tard, le 14 juin 1991, les Suissesses lancent la première grève des femmes. 500 000 personnes répondent à l'appel. L'événement dépasse largement les frontières du pays.
Les bras se sont croisés, mots d'ordre et attitude symbolique pour une journée peu ordinaire dans un pays où le consensus social est la règle d'or.
Il y a une loi qui dit que les salaires devraient être égaux et puis que ça se passe pas, je trouve que c'est bizarre quoi.
Celle qui répond aux journalistes de la chaîne française Antenne 2, c'est Marianne Murpache. La manifestante a alors 29 ans et des envies d'en découdre avec la misogynie ambiante. 28 ans plus tard, Marianne se souvient encore de la façon dont les médias ont couvert la première grève des femmes.
On interroge une femme, on lui demande pourquoi elle fait la grève, puis tout de suite on se tourne vers son mari puis on lui demande qu'est-ce qu'il en pense. La Suisse n'est effectivement pas un pays où on a l'habitude de manifester, et les femmes encore moins. Pour moi, ça a été une prise de conscience, parce que 500 000 personnes en Suisse à cette époque-là, ça disait déjà combien le problème préoccupait des gens. Il y a quelque chose qui les rassemblait, c'était les discriminations faites aux femmes, et elles avaient envie de dire basta.
Il faut dire que la Suisse part de loin. Les femmes n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1971, 27 ans après la France, 65 ans après la Finlande, et encore, la Suisse étant une confédération, certains cantons ont fait de la résistance. Après 1971, des Suissesses ont par exemple pu voter lors des scrutins nationaux, mais sans pouvoir participer aux élections locales. Le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieure n'a mis fin à ce système qu'en 1990, mais seulement contraint et forcé par la justice. Autant dire que les féministes sont plutôt rares au début des années 90 en Suisse, et certains ne se privent pas de le dire face caméra, extrait d'un reportage de la radio-télévision suisse en 1991.
Alors vous n'êtes pas pour le salaire égal
pour
les hommes et pour les femmes?
Non, pas du tout. Parce qu'une femme, moi, c'est un ménage. C'est un ménage, la cuisine et les enfants. C'est tout.
En 2019, après la deuxième grève des femmes, les lignes commencent à bouger timidement. Au début du mois, le Parlement a validé le principe d'un congé paternité de 10 jours. Une petite révolution dans un pays où on considérait jusqu'ici que c'était d'abord aux mamans de s'occuper de leurs jeunes enfants. Un Parlement qui s'est d'ailleurs un peu plus féminisé depuis les élections fédérales du 20 octobre. Avec 42% d'élus femmes au lieu de 32%, la Suisse passe de la 38e à la 15e place du classement des parlements où les femmes sont le plus représentées. La grève de juin semble avoir joué un rôle dans la prise de conscience conscience de l'ampleur des inégalités en Suisse. L'événement pourrait en tout cas faire tache d'huile à l'étranger. En France, des collectifs essaient de lancer l'idée d'une grève nationale au moment de la Journée des femmes, le 8 mars 2020.
Et dans le tableau des meilleurs élèves, ce sont sans surprise la Suède et le Danemark qui remportent les meilleurs scores. Dans le classement de l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes, la France se classe en troisième position et l'Irlande, pas si mal, en numéro 7. Mais il y a encore du pain sur la planche, d'où l'idée du Premier ministre de balayer toutes les réformes nécessaires dans tous les domaines pour faire progresser l'égalité. Et c'est une assemblée citoyenne qui sera chargée de faire des propositions, une méthode qui a déjà fait ses preuves à Dublin, Emeline Vin.
Ces citoyens, tirés au sort de manière représentative, vont devoir réfléchir sur plusieurs points. Comment répartir les responsabilités parentales? Comment abolir les préjugés et par extension les discriminations? Comment garantir que les femmes puissent jouir des mêmes opportunités que les hommes dans la sphère publique, politique, professionnelle? L'abrogation d'un article de la Constitution devrait aussi être étudiée. Il stipule que l'État a une dette envers les mères puisque ce sont elles qui élèvent les futurs citoyens et donc, à l'inverse, que les hommes n'ont pas de rôle éducatif. Le gender gap, la différence de traitement entre hommes et femmes, s'est réduit ces dernières années. L'Irlande est même considérée comme l'un des bons élèves de l'Union européenne. Selon l'Institut européen pour l'égalité des genres, Dublin se classe 7e. Les femmes restent tout de même moins payées que les hommes, 18% de moins en moyenne. La parité aussi est loin d'être acquise dans les conseils d'administration, où plus de 8 sièges sur 10 sont occupés par un homme. À la maison, enfin, les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes à s'occuper des tâches ménagères. 9 femmes sur 10 y consacrent du temps tous les jours contre un homme sur 2. Alors pourquoi faire appel aux citoyens plutôt que de passer directement par les députés? Ce modèle de démocratie a déjà fait ses preuves en Irlande en matière de recherche de consensus. Il y a 3 ans, une assemblée similaire avait été convoquée pour réfléchir à l'avenir du 8e amendement qui interdisait l'avortement. Aucun gouvernement n'aurait osé proposer l'abrogation, jugée à l'époque trop extrême. Et après plus d'un an de débats, retransmis en direct pour toute la nation, l'avortement a été légalisé par référendum à plus de 66%.
Et en Hongrie, les différences de salaire sont en train de se réduire, surtout grâce au plein emploi et l'émigration, ce qui donne un tableau très contrasté à Budapest, Florence Labruyère.
En termes d'inégalité de salaire, la Hongrie paraît un bon élève. En 2012, le salaire horaire des hommes était supérieur de 20% à celui des femmes. Aujourd'hui, la différence n'est plus que de 14% contre 16% en moyenne dans l'Union européenne. La Hongrie fait mieux que certains pays, comme l'Estonie, où les hommes gagnent presque 30% de plus que les femmes. Selon plusieurs économistes, le rattrapage des salaires féminins serait dû à l'émigration. Ces 10 dernières années, près de 500 000 Hongrois seraient partis travailler à l'étranger. Conséquence, les employeurs ont du mal à recruter. Dans la restauration, l'informatique ou dans le secteur hospitalier, la Hongrie manque de main-d'œuvre. Les salariés, et particulièrement les femmes, se retrouvent dans une position plus favorable pour négocier un salaire plus élevé. Mais ces chiffres masquent une autre réalité. Le salaire horaire des femmes a beau augmenter, leur revenu annuel reste inférieur de 32% à celui des hommes. Et cela parce qu'un grand nombre d'entre elles travaillent à mi-temps ou à temps partiel pour être avec leurs enfants. Selon une étude de la Commission européenne, un Hongrois consacre 9 heures par semaine aux tâches ménagères. Mais les femmes, qu'elles travaillent à temps partiel ou à plein temps, passent en moyenne 22 heures par semaine à faire le ménage, les courses et à s'occuper de leur progéniture. En rallongeant le congé de maternité, qui est aujourd'hui de 3 ans, le gouvernement de Viktor Orban encourage les femmes à rester à la maison. Elles sont donc moins présentes que les hommes sur le marché du travail, une situation qui contribue à maintenir les inégalités.
En Bosnie-Herzégovine, dans les Balkans, le salut viendra peut-être d'une indignée, une jeune femme, Irma Baralija, qui a découvert les indignados en faisant ses études à Madrid. De retour dans son pays, elle s'est lancée dans l'arène politique à Mostar, une ville sans équipe municipale depuis 11 ans. Son portrait est signé Simon Rico.
Irma Baralia est née à Mostar au milieu des années 1980. Elle avait 8 ans quand le vieux pont qui reliait les deux rives de la Neretva a été détruit lors des combats qui faisaient rage entre les forces croates et bosniaques. La paix revenue, elle a passé son bac puis elle est partie étudier les sciences politiques à Madrid grâce à une bourse du gouvernement espagnol. Là-bas, elle a suivi avec attention le mouvement des indignés qui a forgé son esprit de révolte. Une fois son master validé en 2011, elle décide de revenir chez elle à Mostar, jugeant qu'elle y sera plus utile. Elle se lance dans l'enseignement pour transmettre et pour montrer aux plus jeunes qu'il n'y a pas de fatalité à vivre en Bosnie, qu'il est possible d'y inventer un avenir autre que celui imposé par les formations nationalistes qui se partagent le pouvoir depuis la fin de la guerre. En 2014, c'est avec cet objectif qu'elle s'implique dans le grand soulèvement populaire des pleins hommes contre la corruption et le nationalisme, malgré les menaces de sa hiérarchie. Après cette expérience, Irma Baralia décide de franchir le pas et se lance en politique. Elle ouvre l'antenne locale à Mostar de Naša Stranka, le parti citoyen fondé par le cinéaste Dani Stanović, dont elle vient de prendre la vice-présidence. On se soucie des droits des Bosniaques, des Croates et des Serbes, mais personne ne se soucie des droits des travailleurs, de la famille et surtout pas des femmes, déplore-t-elle, avant de clamer que c'est d'abord en réglant les problèmes sociaux et économiques que la Bosnie-Herzégovine surmontera ses divisions. Dans une société bosnienne encore très patriarcale, les femmes effectuent plus des deux tiers des tâches ménagères non rémunérées, travail agricole compris, une activité en forte hausse à cause de la désindustrialisation. Mais paradoxalement, Irma Baralia explique que son statut de femme jeune lui assure une certaine liberté de parole parce que cela ne la lie pas à la guerre.
Et en Turquie, le droit des femmes a marqué un net recul ces dernières années. Voici que le gouvernement Erdogan annonce une réforme controversée des pensions alimentaires pour les femmes divorcées. Les femmes les plus pauvres pourraient voir leur pension fortement diminuée, alors que bien peu est fait pour leur permettre de travailler. Doit-on y voir une réforme très politique pour décourager les divorces? C'est le reportage à Istanbul d'Anne Anglauer.
Nafaka, mot d'origine arabe passé dans la langue turque pour signifier au sens large ce qui est nécessaire pour vivre. Au sens strict, juridique, désigne la plupart du temps une pension alimentaire accordée au terme d'un divorce. Dans un pays comme la Turquie, où moins de 30% des femmes travaillent, divorcer implique la plupart du temps de se retrouver sans argent et sans sécurité sociale, avec un ou plusieurs enfants à charge. Pour elles, car il s'agit presque toujours de femmes, le code civil turc a prévu ce qu'on appelle la yoksulluk nafakası, la pension de pauvreté. La loi accorde au juge une grande liberté sur les modalités. Céline Nakopoulou, une avocate d'Istanbul, tient à le rappeler pour bien introduire le débat.
Voici ce que dit la loi. La partie qui se retrouve en situation de pauvreté, à condition qu'elle n'ait pas commis de faute lourde, peut demander à l'autre partie une pension alimentaire à durée indéterminée. La loi ne dit pas « reçoit », elle dit « peut demander ». C'est le droit de faire une demande. La pertinence, la durée et le montant de la pension sont laissés à l'appréciation du juge aux affaires familiales, qui tiendra compte de la situation économique, de l'emploi et du niveau d'éducation des deux parties.
Ce que le gouvernement turc veut faire, c'est encadrer la liberté des juges en instaurant une durée minimale et une durée maximale de versement des pensions alimentaires. Une loi en préparation obligerait les juges à indexer la durée de la pension sur la durée du mariage. 2 ans de pension, ce serait la durée minimale si le mariage a duré moins de 2 ans, puis 3 ans de pension si le mariage a duré 3 ans, et ainsi de suite. Ce serait donc la fin des pensions à durée indéterminée. Le ministère de la Justice explique avoir reçu de nombreuses plaintes d'hommes divorcés qui expliquent que l'argent qu'ils versent à leur ex-épouse les appauvrit, les empêche de fonder une nouvelle famille ou de se lancer dans un projet. Ande, une employée de banque qui a divorcé il y a 6 ans et ne touche aucune pension de son ex-mari, estime à première vue que la mesure est logique.
Je considère qu'il faut effectivement tenir compte de la durée du mariage. Imaginons une femme qui serait restée mariée 20 ans et n'aurait jamais travaillé. Il est logique que son ex-mari subvienne à ses besoins. Mais une femme encore jeune qui n'a été mariée que quelques années, Elle peut encore trouver un travail et se construire une nouvelle vie.
Pourtant, ce n'est pas si simple et les associations de défense des droits des femmes sont vent debout contre la réforme. Elles accusent d'abord le pouvoir de lancer un débat sans fournir aucune statistique. C'est ce que déplore la militante féministe Zela Layman.
On nous dit que certains pères, certains anciens maris seraient victimes de la situation actuelle. Mais c'est tout. Combien de pères? Pourquoi sont-ils victimes? Combien payent-ils à leur ex-femme? Admettons qu'il y ait réellement un problème. Donnez-nous des chiffres. Comment voulez-vous tenir un débat sain sans le moindre fait pour l'étayer?
L'avocate Céline Nakopolo estime pour sa part que c'est un faux débat. Premièrement parce que, de toute façon, les juges n'accordent pas de pension à vie aux femmes qui n'en ont pas besoin. Ensuite parce que le droit autorise celui qui s'acquitte d'une pension alimentaire à se tourner vers la justice si sa situation économique ou celle de son ex-épouse change.
La loi dit noir sur blanc que si l'homme divorcé se retrouve à son tour en situation de pauvreté, il peut lui aussi réclamer une pension de son ex-épouse. Ensuite, certains hommes dénoncent leur ex-femme qui touche encore une pension alors qu'elle a retrouvé un travail. Mais qu'attendent-ils pour réclamer à la justice une annulation de la pension? Là encore, la loi a tout prévu.
Voilà pour les arguments juridiques. Mais en réalité, le fond du problème est tout sauf juridique. Les associations féministes accusent l'État et la société d'enfermer les femmes mariées dans le rôle d'épouse et de mère. Puis, lorsque ces femmes divorcent, de s'attendre à ce qu'elles trouvent miraculeusement un travail et ne dépendent pas d'une pension. Céline Nakopolo.
Dans ce débat, on dirait que nous, les féministes, nous réclamons qu'on ne touche pas à la loi. Sommes heureuses que la plupart des femmes divorcées sombrent dans la pauvreté. Heureuses que si peu de femmes travaillent. Que la charge de s'occuper des enfants revienne exclusivement aux femmes. Ce sont des problèmes majeurs. Alors s'il vous plaît, créez les conditions pour que davantage de femmes travaillent et arrêtez de présenter les femmes pauvres divorcées comme des paresseuses qui veulent vivre au crochet d'un homme.
Si la priorité du gouvernement n'est pas d'améliorer l'indépendance économique des femmes, dès lors, pourquoi ce débat? Pourquoi vouloir toucher à ces pensions à durée indéterminée qui, en l'état actuel du droit, ne sont de toute façon jamais attribuées de manière automatique? Pour les militantes comme Céline Nakopolo, la réponse est claire.
Le but est de rendre les femmes encore plus dépendantes des hommes économiquement pour qu'elles renoncent à divorcer, pour qu'elles renoncent à quitter le foyer où elles subissent parfois des violences. Le gouvernement se plaint sans cesse des taux de divorce en hausse. Nous, nous disons empêcher les meurtres, pas les divorces. Ce projet sur les pensions ne sort pas de nulle part. C'est le résultat d'années d'efforts du parti au pouvoir pour renier les droits des femmes. Et nous, féministes, dépensons toute notre énergie à préserver nos droits acquis au lieu de réclamer une amélioration de nos droits.
Les ONG citent notamment une étude menée il y a 5 ans selon laquelle 75% des femmes divorcées disent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur ex-mari. Elles appellent donc les pouvoirs publics à ne pas se tromper de victimes.
Au moins 600 blessés, c'est le lourd bilan des affrontements qui ont secoué la Catalogne après la condamnation de plusieurs leaders séparatistes à de lourdes peines de prison à la mi-octobre. Entre Madrid et Barcelone, entre le Premier ministre Pedro Sanchez et le président de la région catalane, Quim Torra, le dialogue est au point mort. Quim Torra, une personnalité controversée, Juliette Garbrand nous fait son portrait.
Avocat, né en 1962, Quim Torra a créé une maison d'édition et dirigé de grandes institutions catalanes. C'est par défaut qu'il est élu président de la Généralité en mai 2018, 66 voix contre 65, pour remplacer le dirigeant en exil Carles Puigdemont. Très critiqué pour d'anciens propos xénophobes sur les Espagnols, Quim Torra, une fois président, poursuit les déclarations polémiques et ses prises de position continuent à faire débat. Le chercheur Cyril Trépied de l'Université Paris 8.
Je pense au groupe des comités de défense de la République, qu'il a publiquement soutenu en de nombreuses occasions. Je pense au groupe qui a été arrêté et mis en examen pour des projets d'attentat. Il les a publiquement soutenus au Parlement catalan au lendemain de leur arrestation.
La personnalité de Quim Torra divise au sein même de sa famille politique, mais ce qui fait l'unanimité en revanche, c'est le caractère injuste des lourdes peines de prison infligées aux 9 dirigeants accusés de sédition. Certaines ONG comme les indépendantistes dénoncent une interprétation extensive du chef d'accusation pour brider la liberté d'expression et de manifestation. Daniel Camos, délégué de la Généralité de Catalogne en France, estime que la question est avant tout politique.
Ce qu'on a vu le 1er octobre 2017, même si la police espagnole matraquait les gens qui avaient un bulletin de vote dans la main, ce qu'on a vu, c'est que 2,3 millions de personnes sont allées voter.
En attendant, la Catalogne en crise pèse de tout son poids dans la campagne des législatives du 10 novembre et selon les sondages, c'est au bénéfice des conservateurs.
Alexander Vatrelinze, aujourd'hui par Ludivine Amado, retrouvez-nous sur notre site rfi.fr. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité.